This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. No.
Et donc, à chaque fois, je répondais, je suis française, je suis née à Lille. Et on me répondait, oui, mais avant. Donc, je comprenais bien que là, il fallait que je donne la raison pour laquelle je n'étais pas blanche. Donc, je répondais, oui, je suis aussi rwandaise. Et là, presque systématiquement, j'avais une remarque désobligeante sur Rwanda. Genre, ah oui, là où ils sont massacrés. Ah oui, c'était quoi déjà les Tutus, les Hutsis ouais, et toi, ta famille, est-ce qu'elle a massacré des gens ou est-ce que c'est celle qui s'est fait massacrer Enfin, des choses comme ça, en tout cas. À l'école, dans l'enfance, dans l'adolescence, c'était très brut. Et ensuite, quand j'ai commencé à grandir un peu et à m'affirmer sur cette question, j'ai pu avoir des discussions plus intéressantes, entrer dans des cadres plus politiques, plus professionnels, dans lesquels j'ai pu vraiment expliquer l'histoire de ma famille sans craindre d'avoir une réaction complètement raciste et discriminante en face, et parler des responsabilités coloniales de la Belgique, de la France, tout en étant entendue.
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime, afin de mieux se l'approprier.
Je m'appelle Jessica Gérandal-Mouisa, j'ai 27 ans, je suis de nationalité franco-rwandaise et je suis éducatrice de rue.
Jessica, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ton enfance ?
Par où commencer ? J'ai grandi en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le Var, à Sifour-les-Plages exactement, et dans une ville où il n'y avait pas beaucoup de personnes racisées, globalement. Donc, mon enfance, j'ai du mal à la délier du racisme. Voilà, dans une ville où non seulement les gens n'ont pas l'habitude de voir de l'altérité, mais en plus sont particulièrement racistes, c'est-à-dire idéologiquement votant Front National. Donc ça, c'est pour le côté ambiance globale. Et dans ma famille, j'ai plutôt passé mon enfance à trois, on va dire, à la maison, avec mon père et mon grand frère, parce que ma mère, elle est décédée quand j'avais 9 ans. Donc elle est décédée de quelque chose qui est assez classique pour les Rwandais de sa génération, un traumatisme et de maladies en découlant issues du génocide contre les Tutsis. Donc ça, c'est un petit peu le contexte de mon enfance. Donc beaucoup de douleurs et de questionnements autour de l'identité, d'où je venais, et décuplé par le lieu dans lequel j'ai grandi.
Tu as parlé du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes racisées. Quand est-ce que tu as compris que tu étais une femme ou une jeune fille noire ?
Alors, je m'en souviens avec exactitude. C'était à l'école primaire. C'est un moment, je crois, où un garçon m'a dit « Toi, de toute façon, t'es noire. » Et je me rappelle être restée vraiment sur le cul. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je comprenais pas. Je n'étais pas consciente d'être noire, en fait. Pour moi, j'étais pas noire. Et je suis restée, je pense, pendant des jours, des semaines, des mois, peut-être même des années, parce que je devais, j'ai moins de 10 ans, quoi, à me dire, pourquoi il m'a répondu ça, en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'était quoi le rapport avec l'action du moment ? Pourquoi il m'a répondu ça ? Donc, c'était la première fois. Je pense que, oui, j'ai mis pas mal d'années à comprendre que vraiment j'avais une condition particulière sur ce territoire du sud-est, mais aussi de la France, qui faisait que je n'étais pas comme les autres.
Est-ce que t'en parlais avec ton père ?
Non, je n'ai jamais parlé de ça avec mon père. J'ai dû deux ou trois fois lui raconter des épisodes de racisme, mais lui, vraiment, il évacuait ça en me disant c'est des abrutis, ne les écoute pas, c'est n'importe quoi. Mais je n'ai jamais eu de discussion sur ces sujets-là. De manière générale, dans ma famille, il y a une grande question du tabou. Et du côté français et du côté rwandais, on ne parle pas des choses, on ne parle pas de soi, on ne raconte pas ce que faisaient les grands-parents, on ne parle pas des situations même socio-économiques. En fait, ma famille est vraiment dans le tabou le plus total. Donc à chaque fois qu'il y a une question un petit peu sérieuse, on va dire « Oh, c'est rien » ou « Oh, t'inquiète pas » ou « Avance, ne te préoccupe pas de ça ». Ça a longtemps fait ma personnalité parce que quand j'étais adolescente, j'étais très secrète. Vraiment très secrète. Je ne racontais rien de moi. Je ne racontais rien de sérieux. J'étais toujours dans les petites blagues, les petits sourires, mais jamais rien de très profond sur moi-même. Bah du coup, j'ai un grand frère qui a 3 ans de plus que moi. On s'entend bien aujourd'hui, mais ça n'a jamais été le cas en fait, c'est particulier. Alors que moi, j'ai toujours été très intéressée par la politique, l'engagement, les questions d'identité, lui c'était l'extrême inverse. Et c'est toujours l'extrême inverse. Alors quand j'ai commencé à être engagée, à partir de l'âge de 15 ans, au sein des jeunes socialistes, lui, il ne comprenait absolument pas mon engagement. Et il avait plutôt tendance à se ranger du côté du reste de la famille, parce que toute ma famille vivant en France est plutôt de droite. Et donc, on parlait pas la même langue, quoi. On se comprenait pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Donc on n'a jamais été proches. Et on a même eu quelques petites frictions au niveau de l'adolescence parce que on était trop différents, vraiment trop différents. À partir de l'âge de 11-12 ans à peu près, j'étais dans une famille recomposée. Donc j'ai eu un petit frère qui a 2 ans moins que moi. Et avec lui, bon, il n'y a jamais eu de tension, on s'entendait très bien. Mais pareil, on n'a pas évolué de la même manière, on ne s'intéresse pas aux mêmes choses du tout. Et lui aussi, les questions d'identité, ça ne le touche pas particulièrement. Voilà pour la fratrie.
Et oui, et même auprès d'eux, tu étais assez secrète, tu ne leur parlais pas de ce qui te travaillait, de ce qui te questionnait?
Non, on ne parlait pas de ça entre nous, on ne se posait pas de questions. Même le décès de ma mère avec mon grand frère... Je pense qu'on n'en a jamais vraiment parlé tous les deux. J'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de personnes quand on grandit dans un cadre où rien n'est discuté, rien n'est débattu. C'est très difficile d'être la première personne à dire « bon bah maintenant, allez, discutons de tout ». Donc j'ai évolué par rapport à ça grâce à l'engagement, parce que l'engagement politique fait qu'on doit parler, se raconter, sans se mentir aussi, se créer un personnage, donc parler de choses intimes. Donc c'est, je pense, ça en partie qui m'a débloquée. Et aussi le fait que les jeunes socialistes, une des raisons pour lesquelles je suis restée presque 10 ans dans cette association, avant de baisser les bras totalement face à la blanchité, était très 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 attachée à la question de la responsabilité de la France dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et donc ça m'a permis de faire un pas vers ma famille, l'histoire de ma famille, l'histoire de ma mère, l'histoire de ses parents à elle. Et aussi ça m'a permis de parler et de prendre la parole sur un sujet sur lequel j'étais moi légitime, contrairement aux autres dans l'association. Donc c'est un petit peu ça qui m'a permis de délier ma langue.
Et quand t'as parlé, t'as dit quoi ?
Au début, je suis restée très scolaire, parce que c'était un petit peu ma stratégie dans cette association-là, les jeunes socialistes. Je voyais comment faisaient les autres et j'essayais de faire pareil ou au moins pas pire. Donc je lisais les anciens textes écrits par nos aînés, je lisais toutes les choses qu'on pouvait m'envoyer, je relatais, tout simplement. Et... par le premier voyage au Rwanda en 2014, qui était en fait une délégation organisée pour participer aux commémorations, alors que la France s'était politiquement, sciemment retirée de cette commémoration-là, j'ai fait un pas de plus vers cette histoire en rencontrant ma famille au Rwanda et en prenant la parole devant des jeunes Rwandais, plutôt de mon âge. Et c'est là que je me suis vraiment dit qu'en fait j'avais une place dans cette histoire, j'avais ma place à prendre, j'avais des choses à dire et par ailleurs aussi des choses que je ressentais et que je ressens toujours et que ça valait le coup bah voilà, de me forcer un petit peu, de me dépasser et d'apporter mon ressenti aux connaissances déjà sues sur la question.
J'ai bien compris que tu étais très secrète, mais est-ce que tu parlais du Rwanda avec ta famille ou à l'école ? Qu'est-ce que c'était pour toi à l'époque ?
Alors, à l'école, c'était difficile parce que, bon, évidemment, étant racisée, noire, à la peau très claire, parce que, vue comme métisse, les personnes me demandaient, comme tout le monde, d'où tu viens. Donc, cette question, je l'ai eue, re-eue, des dizaines de fois par mois, on peut dire, depuis ma scolarisation. Et donc, à chaque fois, je répondais, ben, je suis française, je suis née à Lille. Et on me répondait, oui, mais avant. Donc je comprenais bien que là, il fallait que je donne la raison pour laquelle je n'étais pas blanche. Donc je répondais, oui, je suis aussi rwandaise. Et là, presque systématiquement, j'avais une remarque désobligeante sur le Rwanda. Genre, ah oui, là où ils sont massacrés. Ah oui, c'était quoi déjà les Tutus, les Hutsis ouais, et toi, ta famille, est-ce qu'elle a massacré des gens ou est-ce que c'est celle qui s'est fait massacrer Enfin, des choses comme ça, en tout cas. À l'école, dans l'enfance, dans l'adolescence, c'était très brut. Et ensuite, quand j'ai commencé à grandir un peu et à m'affirmer sur cette question, j'ai pu avoir des discussions plus intéressantes, entrer dans des cadres plus politiques, plus professionnels, dans lesquels j'ai pu vraiment expliquer l'histoire de ma famille sans craindre d'avoir une réaction complètement raciste et discriminante en face. Et parler des responsabilités coloniales de la Belgique, de la France, tout en étant entendue. Donc ça a pris un petit bout de temps, mais maintenant je pense que je peux travailler et parler sur cette question en étant légitime.
J'avais une question par rapport à ta mère. Quand tu as évoqué le fait que que c'était assez commun en fait que les personnes qui avaient vécu le génocide soient confrontées à des maladies ou je sais pas, qu'est-ce que c'est concrètement ça ?
Ce que c'est concrètement, c'est que le génocide n'a pas fait que des victimes directes des massacres pendant les 3 mois du génocide. À la fin, il y avait tout un pays avec des personnes qui avaient vu la majorité de leur famille se faire exterminer. Il y avait des femmes qui avaient subi des viols, qui étaient enceintes, touchées par le VIH. Tout un pays vraiment qui a été meurtri, même parmi les survivants. Pour les familles Tutsis, ce qui était difficile, c'est qu'il fallait survivre tout en sachant qu'elles étaient illégitimes à survivre. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, les survivants ont un complexe du survivant. C'est-à-dire, pourquoi moi je suis encore là ? Aussi, c'est un crime généalogique, c'est-à-dire que ceux qui ont pensé le crime de génocide avaient envie d'exterminer toute une race. Et donc, même parmi les enfants qui n'ont pas connu le génocide, il y a un traumatisme. Un traumatisme qui est là, qui est palpable, parce que quelque part, il n'aurait pas dû exister. C'est ça l'idéologie génocidaire. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas au Rwanda pendant le génocide, qui n'étaient pas nées pendant le génocide, qui sont complètement traumatisées du génocide. Et donc, ça mène à des maladies mentales, physiques, par la somatisation, à de l'alcoolisme, à des automutilations, à tout ce qu'on peut imaginer quand des personnes souffrent énormément. Et donc, malheureusement, c'est le cas de nombreux Rwandais qui vivent au Rwanda et aussi de membres de la diaspora qui peuvent parfois malheureusement être un petit peu isolés. Et pour ma famille, c'était notre cas parce que ma mère, mon père, moi et mon frère, on était dans le sud-est de la France et en fait, il n'y avait pas de Rwandais autour de nous. On était dans le Var, à Sifour-les-Plages, on n'avait pas de personne pour venir nous visiter, pour aller voir si ma mère allait bien. Puis je pense que tout le monde était focalisé sur sa propre famille, bien évidemment. Donc la solitude, en plus de l'événement, ça devait être très difficile, je pense.
Par rapport à ta famille, encore une fois, est-ce que tu parlais du Rwanda ? Est-ce qu'on t'a parlé du Rwanda ? Ça représentait quoi pour toi ? Est-ce que c'était un pays d'origine lointain auquel tu comptais jamais rendre visite ? Ou est-ce que c'était quelque chose que tu rêvais de visiter un jour ? Est-ce que tu sentais que ça faisait partie de ton identité?
Bah, en fait, c'est particulier parce que on m'en parlait en négatif pendant trop d'années. Donc, pendant très longtemps, j'avais pas envie d'être rwandaise, en fait. On m'arrachait ça littéralement de la bouche. C'est-à-dire que quand on me demandait d'où tu viens, et que je répondais « je suis française, je suis née à Lille, machin », on me forçait à dire « oui, mais non, mais il y a autre chose ». Et j'avais pas envie, en fait. Au début, j'avais pas envie de répondre à la question. Et puis, quand j'y répondais, je voyais pas ça comme quelque chose de positif. C'était... plutôt quelque chose de négatif, de triste. Ça me renvoyait à un pays que je ne connaissais pas, à part par une histoire tragique. Donc en fait, j'avais rien à valoriser. Et c'était que après un certain nombre d'années d'engagement politique et de connaissances acquises sur des dynamiques sociétales, le racisme, la colonisation et toutes ces conséquences, qui sont vraiment l'histoire du Rwanda aussi, que j'ai commencé à me dire qu'en fait, il y avait quelque chose à creuser et que je n'avais pas à avoir honte ou peur de me dire rwandaise. Évidemment, c'est avec le contact avec le réel, le premier voyage au Rwanda, que j'ai été complètement persuadée de ça parce que c'est un pays qui ne résiste pas aux clichés qu'on lui accole. C'est un pays magnifique, avec des gens d'une résilience dingue. Un pays qui a réussi à se sortir d'une histoire de violence sans vengeance, donc qui donne une leçon d'humanité incroyable au reste du monde. Et voilà, en fait, j'ai assez rapidement compris, quand je me suis intéressée au Rwanda, qu'en fait, il fallait que je sois fière d'être rwandaise. Et d'autant plus fière que je pouvais répondre à toutes ces personnes racistes qui me disaient « mais tu viens d'où ?» Mais c'est pas la France, mais c'est les sauvages. Ah non, en fait, j'avais quelque chose de vraiment très profond, très sage à défendre.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent, je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Et en parlant de ta famille, du coup, quand tu as commencé à t'engager par rapport au génocide des Tutsis au Rwanda, quelle a été la réaction de ton père, de ton frère ?
Du côté de ma famille en France, ils étaient assez interdits. Ils voyaient ça d'un bon œil, bien sûr, mais j'avais cette impression qu'ils n'osaient pas trop commenter. Comme s'ils ne pouvaient pas savoir à quoi ça allait mener, est-ce que ça allait pas me faire du mal. Je pense que au début ils ont eu un peu peur, aussi par mes connaissances, parce que mon père et mon frère ne connaissent pas grand chose du Rwanda. Mon père a connu à un moment le Rwanda, mais c'était le Rwanda des années 80. Là, il continue à me dire « fais attention à toi quand je vais au Rwanda », donc ça me montre bien qu'il connaît rien du tout du pays, parce que c'est beaucoup plus sécurisé que Paris, en fait. Donc me dire ça, c'est assez rigolo. Et oui, non, en fait, j'arrivais pas vraiment à cerner leur réaction au début, en 2014-2015, quand j'ai vraiment commencé à travailler sur ces sujets. Je sentais qu'ils étaient un petit peu sur la retenue, oui. Peut-être qu'ils se demandaient... est-ce que ça ne va pas lui faire du mal de penser à tout ça, cette histoire si triste, qui est liée à l'histoire de notre maman? Donc je pense qu'ils étaient sur la retenue, mais plutôt d'un côté bienveillant. Et du côté rwandais, c'est là où j'ai eu vraiment une belle surprise qui a fait que je me suis encore plus donnée à fond dans ce militantisme. C'est que ma famille du côté rwandais était très 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 fière de moi. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est que je ne m'attendais pas à une telle réaction en commençant à militer sur la question du génocide contre les Tutsis. Tout le monde était très fier de moi, tout le monde m'encourageait. Donc ça, c'était vraiment chouette.
Tu peux nous dire à quel âge tu es partie pour la première fois au Rwanda ?
Alors, c'était à l'âge de 23 ans.
D'accord. Mm. Tu t'es engagée très tôt dans cette cause et dans ce combat et dans, en politique en général. Mm-hmm. Est-ce que aussi, à côté de tout ça, tu prenais le temps de rêver, de demander ce que tu voulais faire et pas juste vivre pour ce combat que tu ressentais dans ta chair?
Ah, touché. Non, malheureusement, je pense pas avoir un jour eu le temps de rêver. Je me fais souvent la réflexion quand on discute avec des amis, où on parle par exemple des premières relations amoureuses. Moi, je me rends compte que ça arrivait très tard. Et qu'en fait, au collège, au lycée, j'étais pas la fille dont on entendait l'éclat de rire de l'autre côté de la cour de récré. J'étais pas insouciante, j'étais toujours sérieuse. J'étais toujours à penser à des sujets sérieux, à la faim dans le monde, aux inégalités, au racisme. Et en fait, j'étais juste pas très joyeuse, quoi. Donc je pense que je ne rêvais pas non plus de grand-chose. J'espérais certaines choses, oui. J'espérais par exemple faire des sciences politiques, chose que je n'ai jamais fait parce que je me suis, comme de nombreuses personnes, auto-limitée. Donc ouais, j'avais quand même quelques objectifs, mais j'étais globalement trop sérieuse, quoi. Vraiment trop sérieuse. Et je pense que je peux dire que je me suis mise à commencer à rêver il y a peut-être 1 ou 2 ans. C'est assez récent vu que j'ai 27 ans. Mais ouais, il y a 1 ou 2 ans, j'ai fini mon cheminement identitaire un petit peu torturé. J'ai commencé à savoir ce que j'étais, là où je voulais aller. Et ouais, depuis 1 ou 2 ans, je commence à rêver, à vouloir des choses, à me dire que c'est possible. Mais en tout cas, l'adolescence, non, j'étais trop sérieuse.
Tu fais encore, j'imagine, constamment face à des gens qui te demandent d'où est-ce que tu viens, de justifier ta couleur. Et toi, comment est-ce que tu te sens avec ta couleur ?
Moi, je me sens une femme noire. Mais en tout cas, ça a été une question pendant très longtemps, pendant vraiment très longtemps. Parce que j'étais bien consciente du fait que je n'étais pas seulement africaine. J'ai grandi avec mon père qui est blanc. J'ai eu une éducation, une socialisation, mais plus blanche que ça, tu meurs. J'avais droit à TF1, le JT, midi et soir, les émissions du genre les grosses têtes à la radio, ce genre de choses. Enfin, j'ai une éducation tellement traditionnelle, voire franchouillarde. Mais voilà, on voulait toujours me ramener vers mon côté non-blanc. Ensuite, à côté de ça, il y avait la fétichisation des personnes vues comme métisses. Donc moi, j'étais exotique. J'étais jolie parce que noire mais pas trop, toutes ces choses là qui ont fait que, encore une fois, pour moi cette question identitaire est restée longtemps tabou, un sujet d'agacement personnel mais dont je ne faisais part à personne. Mais en tout cas, le terme métisse, je ne l'ai jamais accepté, il m'a toujours profondément énervée, même quand j'étais petite. Je comprenais pas ce que ça voulait dire, mais alors littéralement pas. Il y avait cette chanson de Yannick Noah, là, Je suis métisse, qui m'a poursuivie pendant des années. Mon Dieu, je la hais. Un mélange de couleurs, mais qu'est-ce que ça veut dire que ça? Et je crois que même sans avoir de connaissances théoriques sur le racisme, je savais déjà, petite, que m'identifier par le mélange de la race blanche et de la race noire, c'était complètement fucked up. C'était n'importe quoi. Donc le métissage, qui était toujours, qu'on m'amenait toujours avec ce côté fétichisation, c'est cool d'être métisse, c'est beau d'être métisse, à vous les métisses, non, je l'ai vraiment toujours rejeté. Maintenant, je sais pourquoi, je sais précisément pourquoi, comment on a créé ces catégories, ce qu'elles veulent dire. Je sais pourquoi je n'aime pas ce mot. Mais c'est toujours difficile parce que, évidemment, en France, les gens ont tendance à vouloir nous identifier de force. Donc on n'a pas notre mot à dire. Donc moi, je sais que je reste métisse et que je vais rester assignée métisse pendant très longtemps. Mais en tout cas, quand on me pose la question, je refuse. C'est hors de question. Je ne suis pas une espèce de race bâtarde qui soit veut dire la fin du monde des races pures, soit veut dire l'hypothétique fin du racisme pensée par nos très chers amis blancs fraternalistes. Non, tout ça ne veut rien dire. Donc, je ne suis pas métisse. Je ne suis pas métisse et j'espère qu'un jour on arrivera à avoir un débat sain, même dans la communauté. Parce que on parle souvent du métissage, par rapport à ce que disent les blancs. Mais moi récemment, j'ai tapé le mot « métisse » dans ma barre de recherche Twitter et je suis tombée sur des conversations proprement hallucinantes de la génération des 2000, on va dire, qui ne peuvent pas supporter de voir un mariage entre personnes d'origine maghrébine et de personnes noires et des choses comme ça. Donc on a tellement de choses à déconstruire et je pense que ça va faire l'objet pour moi de plusieurs travaux et de plusieurs écrits. Parce que ça me passionne, ça me touche, ça m'énerve. Et comme tous les sujets qui me provoquent ça, bah je finis par sortir un petit billet de blog.
Est-ce que tu comprends l'assignation, l'assignation par la communauté afro et aussi le fait qu'on dénonce certains avantages, puisque privilège, je trouve que c'est un grand mot, des light skin ou des personnes dites métisses, justement.
Oui, je comprends ça, je comprends tout à fait. En fait, j'ai même une anecdote là-dessus. On m'a souvent dit, et on m'a précisément dit un jour au lycée, que j'étais plus jolie que l'autre noire, parce que moi, j'avais des vrais cheveux. Et donc, en fait, ça voulait dire que j'étais plus jolie parce que j'avais des cheveux lisses, parce que je me lissais les cheveux au lycée. Et cette phrase m'avait vraiment interloquée. J'étais super mal à l'aise. Je savais pas encore trop comment réagir. Je crois que j'ai souri un petit peu parce que je m'étais dit « Ah, c'est sûrement un compliment ». Et de l'autre côté, je m'étais dit « Mais attends, on est deux noirs. Moi, je suis la plus claire. Celle qui est le moins vue comme africaine, et on me dit que je suis la plus jolie, alors qu'en plus, objectivement, pour moi, c'était faux. Et ce genre de choses s'est reproduit assez souvent, en fait. Après, ce qui est très compliqué, c'est que, comme pour tous ces sujets-là, en France, on n'est pas capable d'avoir des vraies études là-dessus, parce que c'est interdit, soi-disant. Et donc ça reste un sujet de tension, en fait les gens le prennent mal. Il y a des personnes noires, dark skin, qui vont dire aux métis et aux light skin, vous avez des privilèges, le racisme est moins dur pour vous, vous êtes mieux acceptés, vous avez moins de galères à trouver des boulots. Moi je pense que c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Et de l'autre côté, les personnes light skin et assignées métis sont tellement incomprises et aussi peu écoutées que du coup elles le prennent super mal, j'ai l'impression, et en fait vont plutôt réagir de manière épidermique, en disant « mais n'importe quoi, mais nous aussi on est noirs », et donc c'est un sujet qui est tellement plein d'émotions, tellement plein de tensions, que j'espère qu'un jour on pourra avoir une discussion, des débats, des échanges posés, parce que le colorisme, fait partie intégrante du racisme, de ce système qu'on combat toutes et tous. Et je pense que c'est ni bon d'un côté de nier et de dire « Non mais attends, moi aussi ma vie était trop dure alors que je suis métisse. » Et franchement, je l'avoue volontiers, j'ai pu réagir comme ça par le passé. J'ai pu moi aussi être piquée et dire « Non mais attendez, je vous aurais bien vu vous grandir à Sifour-les-Plages étant seule personne racisée du collège, du lycée, de je sais pas quoi. » Et ouais, moi aussi j'ai pu être piquée, mais il n'empêche que je ressens que ma vie peut être moins dure que si j'avais été plus foncée, c'est clair. C'est clair et net.
J'imagine que la question d'être noire et d'être claire de peau, elle se pose beaucoup sur le champ sentimental. Comment est-ce que tu t'es construite d'un point de vue sentimental?
Waouh, je me suis construite très difficilement. En fait, mes relations, c'était un enchaînement de galères. Déjà, il y avait ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que j'étais pas insouciante, j'étais pas la fille que tu peux avoir envie de draguer parce qu'elle a l'air trop cool et trop fun. Donc déjà, ça, c'était pas moi, donc ça mettait une première barrière. Ensuite, j'ai très souvent entendu la fameuse phrase « Moi, je suis pas attirée par les femmes noires. » De la part de mes amis au lycée, je l'ai beaucoup entendu. fait, on me faisait comprendre même que je n'étais pas vraiment une vraie fille. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu entendre de façon très explicite aussi. Je me sentais pas désirée, je me sentais pas belle, je me sentais pas femme ou femme en devenir, étant adolescente. Donc, je ne draguais pas. Je ne voyais pas les relations amoureuses comme il peut en exister au lycée, comme quelque chose de possible pour moi. En fait, je m'auto-excluais d'entrer de ces choses-là. Je voyais mes copines dans leurs déboires amoureux. Ça me semblait super cool. J'avais trop envie d'être à leur place, de rentrer chez moi en pleurant, en me disant « Oh, mais il m'a embrassé hier et il ne me calcule plus aujourd'hui. » Bah non, bah moi, il n'y avait personne qui m'embrassait hier, donc c'était un petit peu compliqué. Et j'ai eu des relations, oui, franchement, j'ai eu des relations, mais j'étais tellement réfrénée par le fait que je me sentais pas désirée, que même s'il y avait des garçons qui me désiraient, ça finissait par capoter en à peu près 15 minutes. Donc voilà. Ensuite, mes premières relations sérieuses, entre guillemets, c'était un peu la cata. Je crois que la première, on m'a trompée. La seconde relation vraiment sérieuse, j'étais avec un mec qui m'a fétichisée à mort. Et ça, je l'ai très mal vécu. Qui était vraiment pour le coup très content de sortir avec une noire parce que c'était super cool. Et qui me sortait des choses complètement racistes, complètement sexistes aussi. Je me souviens qu'un jour, il m'avait dit « Une femme, ça doit être sexy, mais aussi ça doit être un peu comme une mère, sinon c'est juste une pute. » Donc ça, c'est, je crois que j'avais 18 ans. Ouais, j'avais 18 ans. Et c'était ma première relation longue, qui a duré, je crois, 2 ans, ou un petit peu plus, presque 3. Donc j'ai eu des relations comme ça. Avec le recul, c'était n'importe quoi. J'ai jamais été bien, j'ai jamais été en confiance. J'ai jamais été valorisée jusqu'à l'âge adulte, hein, vraiment, jusqu'à mes 24 ans.
Et en creusant justement la quête identitaire, ou du moins l'affirmation identitaire, comment tu te définis aujourd'hui en tant que femme ?
Aujourd'hui en tant que femme, je me définis comme femme noire, activiste, afroféministe, panafricaine aussi. Même si le panafricanisme reste malheureusement un petit peu trop théorique pour moi. C'est quelque chose auquel j'aspire, mais que je n'arrive pas à ressentir dans le contexte français. Le panafricanisme, pour moi, c'est l'union des diasporas noires, en fait, avec le continent africain. Le fait d'avancer dans le même sens, de nous élever collectivement, de lutter contre l'adversité, contre le racisme, et d'essayer de faire peuple. En quelque sorte. Et pour moi, c'est malheureusement quelque chose de peu perceptible en France, même si j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'avancer. Mais c'est un petit peu égoïste, c'est par rapport au génocide contre les Tutsis. Je me rends compte que chaque année, au mois d'avril, on est seul. Que même parmi ce milieu de personnes très militantes, très conscientes, très lettrées, qui adorent à chaque fois être les premiers à faire un post sur des petites histoires que personne ne connaît trop, ou sur des mouvements révolutionnaires, ou des mouvements de décolonisation, bref. Ben, chaque mois d'avril, alors qu'on a eu plus d'un million de morts assassinés sauvagement dans une indifférence totale, généralement je ne vois pas une personne non rwandaise faire un post, avoir un message, avoir une pensée, dire quelque chose sur le Rwanda. Alors moi, ça me questionne. Bien sûr, il y a des explications. Le Rwanda était une ancienne colonie allemande puis belge. Donc c'est vrai qu'on a tendance à un peu plus connaître les histoires des diasporas les plus nombreuses sur le territoire. Mais à chaque fois, je me dis qu'il y a autre chose. Alors je me pose la question, je me dis, est-ce que l'histoire des massacres des Noirs entre Noirs, c'est trop tabou ? Pour notre militantisme qui est censé être si woke. Est-ce que le fait qu'il y ait des tensions entre les diasporas rwandaises et congolaises, ça joue ? Moi, je pense que oui. Mais ça m'attriste parce qu'en même temps, je ne vois pas beaucoup de personnes avoir des connaissances précises sur le sujet. Je me dis, est-ce que c'est parce qu'on est un tout petit pays et vraiment une toute petite diaspora? Bon, ça ne devrait pas être le sujet, étant donné qu'Haïti est très loin et qu'Haïti est tout petit. Donc voilà, ce panafricanisme, j'aimerais bien le sentir un peu plus palpable. Pas que de mon côté, quand moi personnellement, je souffre de ouf quand je vois une violence policière, un mort noir tué par la police blanche, où que ça soit dans le monde, ou quand tous les ans on commémore les assassinats de tirailleurs sénégalais à Tcharoï. Ça me fait un mal dingue. Même la guerre du Biafra et j'en passe, c'est des choses qui m'atteignent. Mais de l'autre côté, je ne sens pas la même chose pour le Rwanda. Et ça me questionne vraiment.
Et justement, tous ces questionnements, est-ce que tu cherche à être transformé en un métier? Comment est-ce que tu essayes de vivre de cet engagement? Et c'est quoi ton métier aujourd'hui?
Alors, j'ai pas pu m'empêcher de rire quand tu as dit vivre de cet engagement, parce que je ne fais que perdre de l'argent depuis des années par l'engagement, mais c'est un sujet qu'on connaît toutes et tous. Donc là, je suis éducatrice spécialisée, éducatrice de rue. Donc c'est mon revenu principal. Non, c'est mon seul revenu même. Et mon militantisme, il est complètement bénévole. Je fais des conférences pour expliquer aux collégiens, aux lycéens, l'histoire du génocide contre les Tutsis. Pas uniquement pour leur dire « voilà notre histoire » et puis pleurer un bon coup parce qu'on a envie que vous soyez tristes pour nous. Mais pour vraiment expliquer quels sont les mécanismes qui ont mené au fait qu'un peuple qui était vraiment... un peuple uni, même langue, même culture, même religion. Tu pouvais pas faire plus uni que les Rwandais, en fait. On les a auto-persuadés qu'ils étaient deux peuples complètement différents. Qu'un peuple avait colonisé l'autre, avec des histoires bibliques amenées par les missionnaires. Les Tutsis étaient censés être un peuple nilotique, amitique, venant des grands royaumes d'Abyssinie ou je ne sais quoi encore. Ça, on a réussi à persuader les Rwandais de la véracité de cette bêtise. Donc j'essaie d'expliquer aux lycéens, aux collégiens, comment la colonisation a créé ces divisions-là, ces massacres-là, ces génocides, comment le diviser pour mieux régner a aussi bien fonctionné, et comment, pour en revenir à ce que je disais sur le panafricanisme, ces idéologies ne meurent jamais. C'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui, on peut lire sur les réseaux sociaux, dans des textes, des articles, que les Tutsis ont vocation à dominer l'Afrique centrale. C'est des choses qu'on peut lire. On peut lire que les Rwandais essaient de s'accaparer les richesses de toute l'Afrique centrale. C'est des choses qu'on peut lire. Et il y a tellement de fantasmes, tellement de fake news... et tellement peu de personnes qui cherchent à travailler de manière pointilleuse sur ces sujets, que vraiment le travail de mémoire devient trop difficile. Et c'est notre grande peur à toutes les personnes qui ont perdu des membres de leur famille du génocide, c'est vraiment que les personnes meurent deux fois. Comme disait Elie Wiesel, le négationnisme tue deux fois. On tue les personnes et ensuite on modifie la mémoire, on modifie les histoires, et on fait en sorte que tout ça soit oublié. Donc c'est ça mon militantisme. Ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup d'énergie. Ça coûte aussi un petit peu dans la santé mentale, je pense. Que des fois on fait pas forcément attention au fait que après avoir discuté pendant des heures en conférence, se prendre des questions super personnelles de la part des jeunes, devoir y répondre, en fait on rentre et on est un petit peu vidé. Et non, pour l'instant, je pense que tout le monde considère que ça doit être un travail gratuit et que nous-mêmes, on ne fait pas assez attention à revendiquer quelque chose pour être un petit peu la mémoire de l'humanité, parce que c'est le cas. En plus, on est en 2020. Il y a quelque chose d'assez cynique, c'est que les rescapés de la Shoah commencent à disparaître et qu'on sent que parfois, si les personnes s'intéressent à notre histoire, c'est aussi par défaut. C'est un peu en se disant, mais qui va pouvoir témoigner des génocides? Ah bah, maintenant il y a les Rwandais, c'est bien. Donc il y a vraiment plusieurs aspects pervers à ce militantisme. On devrait tous être un petit peu conscients et travailler dessus, et moi la première.
En gros, t'es en train de constater qu'il y a une sorte d'opportunisme par rapport à la mémoire génocidaire?
J'espère que c'est pas trop répandu. J'ai pas envie d'avoir un discours alarmiste là-dessus. En plus, j'imagine que tous mes compatriotes vont m'en vouloir si je commence à dire que les gens s'intéressent pour les mauvaises raisons. Parce qu'on a tellement envie que les gens s'intéressent à notre histoire. Mais oui, malheureusement, il y a un effet pervers de se rabattre un petit peu sur les derniers survivants d'un génocide, et aussi des associations qui sont spécialisées sur les questions de mémoire de la Shoah, sur l'antiracisme et sur l'antisémitisme, comme la LICRA, qui vont spécifiquement faire de nous leur noir de service, quoi. Donc on est soutenus, mais quand ils veulent, pas tout le temps. Si on a besoin d'attaquer en justice une personne qui leur est proche pour négationnisme du génocide contre les Tutsis, comme par exemple Natacha Polony, qui a un jour dit qu'il s'agissait d'histoires de salauds contre des salauds, en parlant du génocide, par exemple, si on veut attaquer Madame Polony, il va plus y avoir personne du côté de la LICRA pour être à nos côtés. Alors que pendant ce temps, la LICRA peut très bien être main dans la main avec une association d'extrême droite, La Griffe, pour s'attaquer à un rappeur noir, pour avoir fait une chanson qui est complètement imagée, complètement ironique, contre les blancs, je mets des gros guillemets, parce que c'est vraiment la journaliste Siam Asbah qui avait très bien décrypté ce procès-là. C'était du grand n'importe quoi et une inculture de A à Z. Donc moi, ce que je déplore un petit peu dans notre combat avec la communauté rwandaise et nos associations, c'est que par défaut, justement parce qu'il n'y a pas assez de monde qui s'intéresse au combat qu'on mène, des fois on accepte un petit peu tout le monde, sans trop vérifier qui dit quoi à côté. Je pense aussi à un sénateur belge dont j'ai oublié le nom, qui est d'un racisme exacerbé, et qui a récemment écrit un texte, je me souviens, sur sa nostalgie de la Belgique à papa, donc la Belgique quand il n'y avait pas trop d'immigrés, quoi, et qui est un des plus grands défenseurs de notre cause. Donc il y a des gens qui peuvent se permettre d'être complètement racistes, complètement islamophobes, mais devenir la bouche en cœur sur l'histoire du génocide contre les Tutsis. Donc moi, personnellement, ça me pose un énorme problème. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais vraiment que des personnes engagées sur les questions noires s'intéressent un peu au génocide contre les Tutsis pour grossir nos rangs et faire en sorte qu'on ait des débats vraiment utiles.
Et est-ce que t'as déjà été tentée de travailler en politique ?
Du coup, la réponse est un non catégorique parce que je l'ai déjà fait. J'ai été trésorière des jeunes socialistes pendant 2 ans, donc un mandat entier. Et plus globalement, j'ai été militante de cette association pendant 10 ans, de mes 15 ans à mes 25 ans. Et je pense que c'est l'expérience la plus épuisante de ma vie, mais à tous les niveaux. Parce que ce qu'on peut vivre en termes de racisme et de discrimination dans une société, je trouve qu'en politique, en tout cas pour mon expérience, ça a été décuplé x10. Les remarques désobligeantes, le désintérêt total pour les questions qui, moi, me passionnaient et sur lesquelles je voulais travailler, le mensonge constant, la manipulation, tout était vraiment extrapolé. Donc la bizarrerie là-dedans, c'est que j'ai fini trésorière nationale parce que des fois, j'ai un mauvais caractère et j'avais juste envie de prouver que j'étais aussi bien, aussi intelligente, voire plus que les autres membres de l'association. Mais en fait, ça m'a épuisée. C'est comme tu passes 10 ans à essayer de persuader des gens qui sont censés être progressistes, qui sont censés être engagés, qui sont censés être conscients, que tu essaies de les persuader que le racisme existe, qu'il faut faire quelque chose, que non, la déclaration annuelle, le racisme c'est mal, ça ne suffit pas. Tu travailles longtemps, tu lis des livres, tu fais des notes, tu fais des résumés de notes, tu fais des résumés de résumés de notes. Tu finis par dire 3-4 phrases comme ça pour essayer de toucher les gens et ça ne fonctionne toujours pas. Ouais, j'ai passé 10 ans à faire ça, et alors au bout de 10 ans, quand on a commencé à me parler de « Non mais attends, là, le MJS, le PS, c'est fini, il faut aller à la génération, non mais attends, il faut aller à la France insoumise, non mais machin », en fait, je leur disais « Les gars, les meufs, je connais tout le monde dans ce réseau, c'est fini, c'est hors de question, je ne vais pas rejoindre un tel, parce qu'un tel n'est pas mieux que toutes les personnes que j'ai côtoyées ». Je ne vais pas aller plus à gauche parce que plus à gauche, le racisme, il est toujours le même. S'il y a un truc sur lequel j'ai des petits regrets, c'est d'avoir passé autant d'années dans cette association. Je dis petits regrets parce que, pour être objective, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai pu travailler sur des thématiques sur lesquelles je n'aurais jamais travaillé, notamment l'écologie. Notamment les inégalités économiques. Voilà, il y a des bouquins que j'aurais jamais lus sans cet engagement, je pense. Aussi, comme je disais, principalement du fait de mon mauvais caractère, j'avais envie d'être meilleure que certaines personnes, donc ça m'a poussée à me dépasser. Mais non, ça m'a épuisée. Sur le racisme, les discriminations, le sexisme, ça m'a littéralement épuisée. Et maintenant, je suis convaincue que quelle que soit la proposition, aussi alléchante qu'elle soit, quelles que soient les personnalités politiques, aussi prometteuses qu'elles soient, je ne travaillerai plus en politique. Je pense qu'on ne peut pas vraiment être activiste et dépendre d'un parti politique. Ça, je n'y crois plus du tout.
I've had so many rainbows in my cloud. I had a lot of clouds. But I have had so many rainbows. And one of the things I do when I step up on a stage, when I stand up to translate, when I go to teach my classes, when I go to direct a movie, I bring everyone who has ever been kind to me with me. Black, white, Asian, Spanish-speaking, Native American, gay, straight, everybody. I say, come with me. I'm going on the stage. Come with me, I need you now. Long dead, you see? So I don't ever feel I have no help. I've had rainbows in my clouds. And the thing to do, it seems to me, is to prepare yourself so that you can be a rainbow in somebody else's cloud. Somebody who may not look like you, may not call God the same name you call God, if they call God at all, you see? I may not eat the same dishes prepared the way you do, may not dance your dances or speak your language, but be a blessing to somebody. That's what I think.
Est-ce que justement, quand après avoir milité, après avoir, avoir été sur tous les fronts, est-ce qu'il te reste encore de l'énergie justement pour rêver?
Il m'en reste de l'énergie. Là, je commence à comprendre qu'il faut que je m'organise, que j'apprenne à dire non, que je me garde du temps pour me reposer et du coup pour pouvoir rêver, parce que les deux choses sont liées. Hein. Quand on a la tête dans le guidon, c'est très difficile de penser au projet, au futur, à l'avenir, à quoi faire. Donc là, vraiment, depuis un an, je me force à me poser, à me reposer, à prendre des vacances, à couper les réseaux sociaux, à des fois ne plus rien lire sur le Rwanda pendant 3 semaines, 1 mois. Et là, je peux commencer à rêver. Bon, pour l'instant, il y a des questions évidentes de précarité économique qui m'empêchent de rêver à 600%. Mais je rêve d'écrire plus. Je rêve d'oser plus parler parce que je suis une grande timide et que ça commence à m'agacer. Je rêve de voyager plus, notamment sur le continent africain.
T'aimerais aller où?
Alors, j'aimerais découvrir l'Afrique de l'Est en premier lieu. J'aimerais... Bon, c'est toujours lié à la politique, donc voilà, c'est toujours quand même un peu du travail. Mais j'aimerais vraiment comprendre l'histoire de nos peuples et aussi l'histoire des Tutsis dans la région. Parce qu'il y a peu de personnes qui savent qu'il y a des Tutsis au Congo, qu'il y a des Tutsis en Ouganda, qu'il y a des Tutsis au Burundi. Et c'est quelque chose que j'ai envie de découvrir par le voyage. Et j'ai envie d'aller dans le pays dans lequel mon grand frère est né, le Kenya. Là où mon père et ma mère se sont rencontrés. Ouais, déjà l'Afrique de l'Est, ça serait un bon début.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne de la force?
Ce qui me donne de la force, c'est quand j'écris un billet de blog, poussé par la colère et sans trop réfléchir, et que je vois que ça touche les gens. Ce qui me force, c'est de voir qu'il y a encore des réactions qui me donnent un peu foi en le combat antiraciste. Par exemple, il y a quelques heures, j'ai reçu une réaction suite à mon billet de blog « Je ne suis pas métisse, je suis une femme noire » d'un mec, du coup, blanc, qui m'a expliqué en un long pavé que je l'avais beaucoup vexé, que je l'avais beaucoup blessé, que je l'avais beaucoup atteint, que j'avais été souvent très méchante, mais que ça y est, il avait compris. Qu'il avait compris en quoi ça pouvait être difficile de vivre dans un pays dans lequel on t'assigne racialement constamment. Et en plus de subir le déni de ceux qui du coup ne font pas forcément ça, mais c'est la même chose, voire pire. Et ça m'a fait rire parce que ce message, il était, quand je dis qu'il s'est senti blessé, vexé, tout ça, c'était vraiment ironique. Et ce genre de choses, ça donne un peu d'espoir. Ce qui me donne de l'espoir aussi... c'est de voir des jeunes être aussi féroces, être aussi unapologétiques à propos du racisme et du sexisme et de l'homophobie. Et bon, j'ai l'impression, hein, c'est peut-être déjà des paroles de vieilles, mais que waouh, la nouvelle génération de personnes racisées est tellement combative et tellement consciente. Et ça me donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Et surtout, elle ne se laisse pas faire. Et on entend malheureusement très souvent que les Noirs en France ne sont pas solidaires. Moi, je commence à plus être d'accord avec ça parce que les polémiques aujourd'hui, ça part vite. Et on fait comprendre qu'on ne se laissera pas faire. Que le temps où on courbait les chines en attendant que le racisme passe, il est fini. Et ça, c'est vraiment très, très chouette.
Est-ce que, Jessica, tu t'es déjà sentie majoritaire?
Ouais, non, je crois pas que je me sois sentie majoritaire. Je me suis toujours sentie à part, et il y a une lecture qui m'a beaucoup touchée, c'est Maya Angelou, qui est la première à avoir aussi bien expliqué comment, en tant que personne noire, on peut des fois passer des années à observer, comme en surplomb, les personnes blanches, et à du coup toujours être dans cette position qui fait qu'on les comprend si bien, qu'on anticipe si bien leurs réactions, qu'on les connaît par cœur et qu'en fait, on est minorisé, mais on a cet avantage-là. Et moi, je le ressens beaucoup, c'est-à-dire que je me sens minorisée, je me sens jamais majoritaire, mais en même temps, j'ai un réflexe de survie qui fait que j'analyse tout ce que disent les Blancs, surtout ceux qui sont en situation de pouvoir, donc les chefs, les patrons... mes différents patrons en politique, quand j'avais des personnes statutairement au-dessus de moi, j'analyse, et je pense pouvoir dire avec humilité que j'arrive quasiment à chaque fois à tout anticiper. Donc, je suis minorisée, mais des fois, qu'est-ce que c'est pratique et qu'est-ce que c'est marrant. c'est un vrai truc. Et cet aspect de la littérature de Maya Angelou m'a vraiment touchée, parce que j'ai pu faire la liste dans ma tête de tous les moments où j'avais anticipé des réactions blancs.
C'est ce qui s'appelle un super pouvoir.
Oui.
Merci Jessica.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, SoundCloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires.
S'il vous plaît, merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.